Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Laurent Wauquiez est toujours le patron du Parti Les Républicains ce soir. Malgré le revers historique de la liste Bellamy aux européennes, le président de LR se contente de promettre des états généraux à la rentrée. Les explications d'Anne Fauquemberg dans un instant. Ces élections européennes débouchent sur un Parlement européen éclaté où aucun groupe ne détient la majorité. La bataille pour la présidence de la Commission de Bruxelles ne fait que commencer. Nous en parlerons avec notre invité, le politologue Olivier Costa. La mort de François Weyerganse à l'âge de 77 ans. Le romancier franco-belge avait été récompensé à la fois par le prix Renaudot et le prix Goncourt. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Après le Parti Socialiste en 2017, la droite républicaine apparaît aujourd'hui comme la deuxième victime d'Emmanuel Macron. Le Parti Les Républicains a enregistré hier aux européennes un échec historique, 8,48% pour la liste de François-Xavier Bellamy, 5 points derrière la liste écologiste de Yannick Jadot qui finit troisième. En tête, le Rassemblement National de Jordan Bardella obtient 23,31% des voix, juste devant la liste LREM de Nathalie Loiseau, 22,41%. Le coup est rude pour les Républicains, déjà sonné par l'échec de François Fillon il y a 2 ans. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Les LR étaient réunis en bureau national ce soir. François-Xavier Bellamy a demandé pardon pour son mauvais résultat. Quant à Laurent Wauquiez, malgré les critiques, il reste à la tête du parti.
Oui, il reste à la tête du parti, mais l'ambiance était crispée ce soir dans ce parti, toujours marqué par la guerre des chefs. Les appels publics à la démission de Laurent Wauquiez sont restés rares. Le président de Les Républicains qui a proposé une solution des états généraux de la droite à la rentrée pour tout remettre à plat, ce qui en a agacé plus d'un, comme le maire de Meaux, Jean-François Copé, premier à sortir du bureau national tout à l'heure avec une déclaration lacunaire.
Il faut que tout change pour que rien ne change.
Voilà pour l'ambiance mortifère des états généraux. Oui, pourquoi pas, enchaîne le député Damien Abad, mais dans une optique large.
Dans l'avenir, il faut éviter du reverrouillage. Donc je l'ai dit, je l'ai rappelé tout à l'heure en bureau politique, les états généraux, c'est pas un comité théodule de quelques sages et chapeaux à plumes qui se réunissent. Les états généraux, c'est ouvert aux élus locaux, aux parlementaires de la nouvelle génération et à toutes celles et tous ceux qui veulent porter la droite de demain.
Ouvrir le parti à la jeune garde pour le faire respirer et faire revenir aussi les anciens caciques, explique Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.
Tout le monde n'était pas là, vous l'avez vu. Et moi j'en appelle à Gérard Larcher aujourd'hui, qui peut être un trait d'union entre les Républicains, l'UDI, Xavier Bertrand, tous ceux qui, Dominique Bussereau, tous ceux qui n'étaient pas là ce soir, François Baroin, pour qu'on se rassemble et pour qu'on travaille aujourd'hui à une plateforme commune de la droite et du centre.
Valérie Pécresse qui a baissé d'un ton ce soir après plus ou moins avoir demandé ce matin la démission de Laurent Wauquiez. La pression reste néanmoins très forte sur les épaules du chef de la droite et ses attaques à fleurer mouchetées ne font que commencer.
Anne Fauquemberg, merci. Parmi les grands battus du scrutin, il y a aussi Benoît Hamon. Avec 3,27%, la liste du fondateur de Génération n'a obtenu aucun élu au Parlement européen. Benoît Hamon annonce aujourd'hui prendre du recul par rapport à la politique. « J'ai besoin de me poser et réfléchir », déclare à l'AFP l'ancien candidat socialiste à l'Élysée. Sur la scène continentale, ces élections européennes se traduisent par des résultats contrastés. Les écologistes et les libéraux enregistrent des gains notables. Exemple, plus de 20% pour les Verts allemands, 22% pour les marcheurs français. Les populistes aussi obtiennent quelques succès retentissants. Outre les 23% du Rassemblement National en France, on peut signaler les 34% de la Ligue de Matteo Salvini en Italie et les 31% du Brexit Party de Nigel Farage au Royaume-Uni. Mais tout cela aboutit à un Parlement européen morcelé où personne ne détient une majorité claire. Et il va bien falloir se mettre d'accord pour les postes clés et notamment la présidence de la Commission européenne. La bataille ne fait que commencer, Louise Baudet.
Début des hostilités demain soir lors d'un dîner informel des 28 à Bruxelles. D'ici là, Emmanuel Macron est à la manœuvre. Il reçoit ce soir l'Espagnol Pedro Sanchez avant de rencontrer demain plusieurs autres dirigeants européens. Le but, peser sur les nominations, notamment du président de la Commission, véritable Premier ministre de l'Union. Un jeu compliqué car il implique les États membres et les eurodéputés. Selon les traités, en effet, c'est au chef d'État de proposer au Parlement un candidat, mais en tenant compte du résultat des élections européennes. Pour les conservateurs du du PPE, aucun doute. Leur chef de file, Manfred Weber, doit succéder à Jean-Claude Juncker puisqu'ils sont arrivés premiers. Mais le Bavarois pâtit du mauvais score de la droite allemande et plusieurs chefs d'État ne veulent pas de ce mode de désignation, ce qui pourrait favoriser d'autres candidats, le social-démocrate Franz Timmermans, la centriste Margrethe Vestager, voire le négociateur du Brexit Michel Barnier. Confrontation qui se double d'un autre bras de fer, cette fois entre dirigeants européens. Angela Merkel soutient son allié Manfred Weber, mais Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler. D'ici la mi-août, ils vont pourtant devoir s'accorder et convaincre une majorité d'eurodéputés.
Louise Baudet, merci. Invité de ce journal, Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des institutions européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Costa, les écologistes progressent, les partis pro-européens progressent, les populistes progressent. Est-ce que vous voyez malgré tout un grand vainqueur de ces élections sur la scène européenne ?
Non, il n'y a pas vraiment de grand vainqueur. Il y a des grands perdants. Ce sont les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens qui, traditionnellement, qui depuis toujours dominent le Parlement européen et qui là viennent de perdre la majorité dont ils bénéficiaient au sein du Parlement européen. Il faut bien voir qu'on parle vraiment d'une dégringolade. Si on prend le total des sièges qu'avaient les démocrates chrétiens, donc le groupe qui s'appelle PPE et les socialistes, on était à 66% en 99, on est passé à 64 en 2004, 58 en 2009 et 54 en 2014. Et là, on est passé à 43. Donc c'est vraiment une chute vertigineuse. Et les démocrates chrétiens et les socialistes qui ont toujours fait la pluie et le beau temps au Parlement européen perdent tout simplement la possibilité de contrôler ce qui se passe au Parlement européen, de faire passer les textes qu'ils soutiennent, et à commencer par l'élection du président de la Commission européenne, puisque le traité dit que le président de la Commission européenne doit être élu à la majorité des membres du Parlement européen, et pas simplement des votants. Ça veut dire qu'il faut trouver 373 sièges, alors que les socialistes et les démocrates chrétiens n'en ont plus que 320.
Alors à partir de là, il va falloir bâtir une coalition pour désigner le futur président ou la future présidente de la Commission européenne.
Oui, et là on entre vraiment dans l'inconnu. Il faut savoir qu'au Parlement européen, on a toujours travaillé avec des modalités très variables. Parfois, il n'y avait pas d'accord du tout, pas de coalition. Ça a été le cas, par exemple, depuis décembre 2016. Les socialistes, les démocrates chrétiens, les libéraux se sont un peu embrouillés en décembre 2016 à l'occasion du choix du nouveau président du Parlement. Et il n'y avait plus d'accord de gouvernement. Donc, on a travaillé sans accord de gouvernement. On a travaillé aussi à une certaine époque avec ce qu'on appelait un accord technique, qui était un espèce d'accord qui liait les démocrates chrétiens et les socialistes, pas sur un programme, mais pour dire globalement, on va essayer de s'arranger. Et on a travaillé aussi avec un vrai accord de coalition. Ça a été le cas après les élections de 2014, où les démocrates chrétiens, les socialistes, les libéraux se sont vraiment entendus sur un programme de gouvernement pour soutenir Jean-Claude Juncker. Donc là, en ce moment, tout le monde réfléchit, tout le monde négocie et contacte pour voir un peu quelle va être la configuration pour les années qui viennent. Très probablement, il faudra en passer cette fois-ci, comme en 2014, par un vrai accord de gouvernement pour avoir les majorités de manière assez systématique et ne pas perdre trop de temps à systématiquement construire ces majorités sur chaque texte.
Et justement, à quel type de coalition peut-on s'attendre ?
Bon, il y a plusieurs solutions, tout le monde est en train de réfléchir. On a un peu l'impression d'assister aux négociations en vue d'un gouvernement en Belgique. Toutes les configurations politiques sont testées. Beaucoup pensaient qu'on pourrait avoir une configuration sans les démocrates chrétiens, c'est-à-dire les socialistes plus les libéraux plus les verts, mais ils n'ont pas assez de sièges, ils n'en ont qu'environ 320, ce qui est insuffisant. Alors maintenant, certains pensent qu'il pourrait y avoir une coalition entre les démocrates chrétiens, les socialistes et les verts contre, en quelque sorte, les libéraux, à qui on voudrait faire payer un peu leur impudence et leur prétention à être au centre du jeu. Mais là aussi, ça va être relativement court, ça donnerait une majorité, mais qui serait assez fragile, et la capacité des Verts et des démocrates chrétiens à s'entendre sur le long terme, je ne parierais pas trop dessus. Je pense que le plus logique, ce serait une coalition renouvelée entre les socialistes, les démocrates chrétiens et les libéraux, qui donnerait une majorité relativement confortable, mais il est clair que les libéraux, qui se sentent un peu poussés des ailes, ils ont gagné quasiment 40 sièges, et ils vont avoir des exigences relativement fortes pour participer à cet accord.
Olivier Costa, quels sont les favoris pour la présidence de la Commission européenne ?
Alors ça, c'est le grand jeu. Tout Bruxelles ne brise que de ça. On les connaît. Donc, il y a même Fred Weber qui est le candidat du PPE et qui lui dit « Nous avons gagné les élections, je dois être le futur président de la Commission européenne ». Le problème de Weber, c'est qu'il n'a pas tout à fait le bon profil. Il n'a jamais été ministre et jamais Premier ministre. Et donc, il est certainement considéré par certains au sein du Conseil européen comme un peu junior pour pouvoir accéder à la responsabilité suprême à Bruxelles. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui émane de la CSU, donc l'aile quand même relativement droitière du PPE et du côté des socialistes, l'idée d'avoir Weber comme président de la Commission ne plaît pas. Juncker était très différent de ce point de vue-là parce qu'il avait à la fois l'expérience politique qui lui donnait toute sa légitimité auprès du Conseil européen, et aussi Juncker était relativement bien vu chez les socialistes parce que c'était quelqu'un de relativement centriste. Alors si on écarte Weber, il y a Franz Timmermans qui est le candidat des socialistes. Le problème c'est que les socialistes ont fait un score qui est très mauvais et Timmermans lui-même a dit qu'il ne prétendait à rien, alors que même que lui a le poids politique pour faire un président de la Commission. Alors ensuite on parlera de Margrethe Vestager qui est la commissaire sortante qui est du groupe libéral, et je pense que ça pourrait être une solution. Elle bénéficie du fait d'être au centre, d'être certainement une des commissaires les plus appréciées au terme de son mandat, et aussi d'être une femme. Et il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais eu de femme présidente de la Commission européenne depuis le tout début de la construction européenne. Enfin, le joker, celui qui n'est pas candidat déclaré mais dont tout le monde parle, c'est bien évidemment Michel Barnier, qui a un profil centriste, qui a l'autorité politique pour faire le job et qui pourrait être le recours du Conseil européen.
Olivier Costa, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Crise politique en Autriche. Le chancelier conservateur Sébastien Kurz a été renversé par une motion de censure votée conjointement par les sociaux-démocrates et le FPE, la formation d'extrême droite avait claqué la porte du gouvernement après le scandale de l'Ibiza Gate. Une vidéo montrait son leader Heinz Christian Strache promettre des marchés publics autrichiens à une jeune femme supposée être la nièce d'un oligarque russe. De nouvelles élections législatives auront lieu en septembre en Autriche et les conservateurs de Sébastien Kurz partent favoris après leur large victoire hier aux élections européennes. C'était l'un des rares écrivains à avoir décroché à la fois le prix Renaudot et le prix Goncourt. François Weyerganse est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Le romancier franco-belge qui était aussi académicien. Il avait été élu au siège d'Alain Robbe-Grillet. Retour sur une carrière débutée dans le cinéma avec vous Gilbert Chevalier.
François Weyerganse était né en pleine guerre en 1941 à Bruxelles d'un père belge, lui-même écrivain, et d'une mère française. Après des études très classiques, primaire chez les religieuses, humanité gréco latine, il se tourne vers le cinéma et l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris. À 19 ans, il collabore au Cahier du cinéma et tourne un premier court-métrage consacré au danseur Maurice Béjart. D'autres suivront. Critique littéraire et cinéma dans différents journaux, il publie son premier roman en 1973, Le Pitre, qui obtient le prix Roger Nimier. En 1980, il publie Macaire le Copte, qui obtient également un prix en Belgique et le prix des deux magots en France. Dès lors, Weyerganse se voue entièrement à l'écriture. La démence du boxeur obtiendra le prix Renaudot en 1992, trois jours chez ma mère le prix Goncourt en 2005, au terme d'une intense compétition. Son roman était en concurrence avec La possibilité d'une île de Michel Houellebecq. Il est seulement le deuxième auteur à avoir reçu à la fois le prix Renaudot et le Goncourt. Il avait été élu à l'Académie française en 2009.
Gilbert Chevalier, merci. Et c'est deux ans plus tard, en 2011, que François Weyerganse avait fait son entrée sous la coupole. C'est Éric Orsenna qui avait prononcé son discours de réception. Orsenna avait alors évoqué l'art de l'esquive propre à l'œuvre de Weyerganse. François Weyerganse s'en était expliqué sur France Culture au micro de la Grande Table le 20 juin 2011.
Moi, quand j'écris, ce que j'essaye de faire, c'est en fait d'être inattendu pour être intéressant. Voilà, c'est mon seul souci, c'est qu'on puisse me lire avec intérêt. Et on met du suspense dans une page, dans un paragraphe, dans une phrase, quand elle ne se termine pas, la page, comme elle a commencé. En plus, j'essaye aussi toujours de ne jamais l'avoir d'avance sur le lecteur. Il y a beaucoup de livres, parfois même de très grands livres, mais où l'auteur sait à l'avance tout ce qu'il va faire et il vous fait visiter en vous tenant par la main, en tant que lecteur, son musée, son jardin, son terrain. Et là, moi, je n'en sais pas plus que le lecteur à chaque phrase. Donc je sais vaguement un peu qui sera le personnage, mais j'essaie d'inventer, donc je suis en même temps que le lecteur. Vous voyez, donc ça fait qu'on écrit des livres très différents. Par exemple, je ne pourrais jamais écrire un roman policier, parce que le roman policier, il faut vraiment avoir son plan fait à l'avance, puisqu'il faut savoir qui va tuer qui, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un roman policier.
François Weyerganse au micro de Caroline Brouet et Hervé Gardette il y a 8 ans dans la Grande Table. Une archive de l'écrivain disparu aujourd'hui à retrouver sur franceculture.fr. La météo demain sera marquée par un ciel instable et souvent pluvieux sur les trois quarts du pays. Seul le quart sud-est devrait échapper à la pluie. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 16 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 15 à 26 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.